La radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien. Bien, alors aujourd'hui nous allons parler du secteur de la pêche et aquaculture. Comment mieux organiser ce secteur de pêche et aquaculture? On en parle dans cette émission tout à l'heure avec Madame Patricia Maïcha, présidente nationale du réseau pour le développement intégral du Congo et experte en gestion des ressources halieutiques et économie bleue durable. Et on aura également le professeur Mutambwe Shango, expert en écologie du milieu aquatique. Des questions et préoccupations, composez déjà le 099-706-9941. Comment améliorer? Que faire pour avoir pour avoir des bonnes routes afin de désenclaver le territoire national? Ce sera le deuxième thème de cette émission de la vie au quotidien. Pour participer à cette émission, vous pouvez déjà nous appeler au 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Pierre Diassinois assure la mise en onde. Tati Mapoukou est à la coordination et à la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service. Nous sommes à votre service.
Bien, comment mieux organiser le secteur de pêche et de l'aquaculture, la pêche et l'aquaculture? En RDC, vous savez, l'activité de pêche est à 99% artisanale sur le fleuve Congo et ses affluents. Le ministère de la pêche et élevage l'a reconnu lors d'une rencontre sur l'élaboration d'un plan stratégique de promotion de l'économie bleue à Kinshasa. La plupart des poissons qui se retrouvent sur le marché sont importés de la Namibie et des autres pays. Cependant, le gouvernement de la RDC a commandé 8 bateaux de pêche de l'Égypte afin de booster les activités de pêche sur le plan national. Alors, si ce secteur est mieux organisé, le secteur de pêche et aquaculture, cela peut assurer la sécurité alimentaire et générer des revenus, d'après les experts. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mieux organiser le secteur de pêche et l'aquaculture? En République démocratique du Congo, nous avons déjà deux invités en ligne. Madame Patricia Maïcha, bonjour.
Bonjour, monsieur Tati.
Vous êtes experte en gestion des ressources halieutiques et économie bleue durable. Il s'agit plutôt de monsieur Jody et non Tati. Et puis, nous avons également en ligne le professeur Mutambwe Shango, expert en écologie du milieu aquatique. Professeur Mutambwe, bonjour.
Bonjour, mon cher ami.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. La première question, je l'adresse à Madame Patricia Maïcha. Quel état des lieux vous faites du secteur de la pêche et de l'aquaculture en RDC?
Oh, merci beaucoup, monsieur Jody. Et j'en profite pour saluer le professeur Mutamba, mon papa, mon aîné, à qui je dis bonjour. Pour parler de l'état des lieux de la pêche en République démocratique du Congo, moi je veux dire que nous avons un défi majeur et c'est la clé même de notre plaidoyer, parce que nous cessons de mener ce plaidoyer depuis presque 10 ans, que la pêche devrait être légiférée. Nous devons avoir la loi sur la pêche. Parce que quand il n'y a pas un sous-bassement juridique, c'est trop difficile de développer un secteur. En dépit du plan national pour le développement de la pêche et l'aquaculture, PNDA, mis en place par le ministère des Pêches, ce plan ne suffit pas. Il y a aussi beaucoup d'autres lois et réglementations qu'on a eues au niveau national et au niveau régional avec d'autres pays avec qui on gère les ressources. Mais tous ces outils ne suffisent pas si nous n'avons pas notre propre loi par rapport à la pêche. Ça, c'est un grand défi. Deuxièmement, ce que je peux dire, il doit y avoir aussi un renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux, toutes les parties prenantes de la filière. Parce qu'aujourd'hui, la pêche dans notre pays, elle est à majorité artisanale. Et les pêcheurs artisanaux que nous encadrons, et les femmes mariées aussi, sont des gens qui travaillent de génération en génération. Donc, les connaissances sont transmises de génération en génération. Mais nous devons arriver à professionnaliser la pêche pour que la jeunesse aussi s'y intéresse. Il faudra bien encadrer ces acteurs-là. Et c'est le ministère qui a ce rôle-là d'encadrement et d'accompagnement. Parce que le ministère ne pourra jamais produire de poissons. Mais le ministère est là pour accompagner, pour légiférer, pour avec les réglementations, pour faire respecter la loi, pour encadrer, former. Et il doit y avoir au côté du ministère les acteurs, les entrepreneurs qui vont investir dans le secteur pour que la filière soit complète. Parce que même si nous nous limitons à la capture et à la vente du produit brut, si nous ne pensons pas à la transformation de nos produits pour vendre un produit fini, un produit transformé, respecter toutes les étapes de la filière, ça sera toujours un manque à gagner. Quant à l'aquaculture aussi, on doit vraiment encadrer la recherche. Je sais que le professeur Moutamba en connaît plus. Il est aussi mon professeur. Là, il faut encadrer vraiment la recherche parce que c'est à partir de la recherche que nous pouvons faire une aquaculture, une pisciculture durable parce que nous en avons les atouts et les potentialités dans notre pays, comme la pêche à la capture devient de plus en plus rare suite aux différents aléas du changement climatique.
Bien, comment mieux organiser le secteur de pêche et de l'aquaculture, professeur Mutambwe Shango? Alors dites-nous, commençons avec l'aquaculture, comment arriver à mieux organiser ces secteurs pour produire davantage de poissons grâce aux étangs et autres dispositifs. Professeur Mutambwe.
Merci mon cher ami. Je reviens parce que la question m'a été posée au moins 100 fois, mais je continue à dire, et madame vient de le dire, tant qu'il y a une barrière entre l'administration et les chercheurs, rien n'ira. Rien, zéro. Ibungu Tulu. Tant qu'il y a cette barrière-là, pourquoi je dis ça? Nous avons tous les atouts, plus que tous les pays d'Afrique. Mais nous sommes au point mort. Et c'est là où je donne même mes raisons à Jésus qui dirait à un moment donné, les premiers seront les derniers et les derniers seront
les premiers.
Savez-vous que la pisciculture, l'aquaculture a vu le jour en RDC, au jardin zoologique de Lubumbashi et à Kimpopo. Presque tous les pays, je dirais tous les pays d'Afrique noire venaient chercher les alevins chez nous. Et ces pays sont devenus les premiers producteurs de poissons d'étang. Et nous, on n'a même pas de chiffres. Mais cette réussite était due à quoi? Il n'y avait pas de miracle. L'Européen avait ce qu'on appelait le centre d'alvinage qui s'occupait de la recherche et de la vulgarisation et de l'encadrement des producteurs.
Professeur, est-ce qu'on est-ce qu'on a déjà un centre d'alvinage ici, dans le pays ou dans, disons, à travers le pays?
Papa Nangaï,
le centre, oui, prof.
Les Belges avaient 25 centres d'alvinage.
Aujourd'hui, il en reste combien?
Au jour d'aujourd'hui, sur le 25, il n'y a pas 5. J'en ai, moi, je gère un des centres, mais dans des conditions difficiles à Lembaïmbo. On a fait même l'émission avec vous sur Lembaïmbo. Mmh. Ok? Nous avions le plus grand centre de recherche en aquaculture à Yangambi. Aujourd'hui, il y avait 250 étangs. Aujourd'hui, il n'y en a pas 10 qui sont opérationnels. S'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Les ouvriers qui travaillaient avec les Flamands sont encore là, ils sont payés.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer ces centres d'alvinage et ces centres de recherche dont vous faites allusion?
Vous demandez aux chercheurs qui n'ont jamais eu un rond de la part du pays pour faire des recherches? Je ne sais pas. C'est impossible. Je vous dis, la première chose, c'est relancer la recherche. On avait une réunion, je crois qu'on arrivera là-bas. Mmh. On a parlé des espèces nouvelles et tout comme ça. Mais ce ne sont...
Allô, professeur? Oh, je crois qu'il y a un souci avec la ligne du professeur.
Ouais.
Voilà, il est là.
Ok. Ce sont des... Nous avons plus de 1000 espèces de poissons. Ce sont des chercheurs qui, parmi les 1000, vont vous dire, écoutez, prenez telle espèce, telle espèce, telle espèce. Mais nous parlons tous, changeons, faisons ceci, améliorons les tilapia et tout comme ça. Comment? Tant qu'on n'a pas de laboratoire, tant qu'on n'a pas de chercheurs. Donc, la première chose, si on veut aller plus loin, c'est la recherche.
De soutenir la recherche, mettre beaucoup plus de moyens dans
la recherche.
Dans la recherche, oui. Bien.
Voilà.
D'accord, professeur. On va accueillir un auditeur tout à l'heure, Roger Marcel, qui nous appelle des Kinshasa. Madame Patricia Maïcha, vous avez suivi, la RDC va bientôt acquérir 8 bateaux de pêche. Est-ce qu'avec cette acquisition, on peut déjà espérer un développement de la filière pêche dans notre pays? Madame Patricia.
Oui, monsieur le journaliste.
Je disais que le pays va bientôt acquérir 8 bateaux de pêche, donc on peut déjà espérer le développement de la filière pêche dans notre pays.
Oui, bon, nous remercions d'abord cette initiative-là, que nous remercions le chef de l'État, nous remercions le ministre de pêche pour avoir mené à bout ce plaidoyer. Avoir les bateaux de pêche en est une chose et les utiliser en est une autre. Et il faut aussi qu'il y ait un personnel vraiment bien formé qui va utiliser ces bateaux. Et la gestion de la production, la gestion de ces bateaux, on doit savoir si ça sera c'est le ministère qui va gérer les bateaux ou c'est l'Office national de la pêche et aquaculture. Bon, les animateurs étaient nommés depuis plus de 2 ans, mais on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils font réellement. Voilà un peu la difficulté. Avoir les bateaux de pêche, c'est bien, mais où est-ce que ces bateaux vont pêcher? Qui vont pêcher avec ces bateaux? Et les produits qui seront pêchés, quelle sera la suite? Est-ce que les produits seront vendus bruts ou les produits seront transformés pour que toute la filière soit complète? Parce que il doit y avoir la transformation, le conditionnement et puis arriver à la commercialisation. Voilà un peu. Et là, je sais que ce n'est pas le rôle du ministère de faire tout ça. Il y a l'Office national et il doit y avoir aussi d'autres acteurs parce que ce n'est pas le ministère qui va commencer à distribuer les poissons dans les pays. Donc, qui vont vendre ces poissons, il doit y avoir les entrepreneurs, d'où il y a nécessité peut-être d'une réunion ou bien des des activités communes avec toutes les parties prenantes de la filière de pêche. Même vous aussi, les journalistes, par rapport à la, au secteur, vous êtes concernés. On doit vulgariser. La population congolaise doit savoir que ces bateaux sont là et que vont faire ces bateaux. Ils vont travailler où? Est-ce que c'est dans les lacs, dans nos lacs, ou c'est sur la côte maritime, l'océan? Est-ce que c'est sur le fleuve Congo? Et c'est dans quelle rivière ces bateaux vont travailler? Et comment nous allons commencer à nous approvisionner des poissons pêchés par ces bateaux? C'est ça aussi la grande difficulté, parce que nous avons du mal dans notre pays du respect et de protection du bien public. Moi-même, sous mes yeux, j'ai vu ce ministère acquérir beaucoup d'autres ouvrages d'infrastructure sur le lac Tanganyika. C'est un projet depuis 2012 qui s'est clôturé, je pense, à 2008 ou 2010, quelque chose comme ça, les projets Prodap. Mais il y avait la deuxième phase qui devait commencer. Mais on a acquis des barcadères, on a acquis même des bateaux de surveillance, les unités, il y a les agents qui étaient formés pour la surveillance sur les lacs Tanganyika, afin de respecter la réglementation. Il y a eu des fabriques de glace, des chambres froides, des sites de suite. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des difficultés de pérenniser les acquis des différents projets. Donc quand les projets prennent fin, hein, les choses se volatilisent. Et là, c'est le pays toujours qui en paye le prix, parce que ce sont les prêts de la Banque mondiale quand le pays s'endette pour amener le développement. Et au finish, la population ne sera jamais bénéficiaire de ces infrastructures et nous sommes toujours en train de tourner en rond et toujours le recommencement. Il y a d'autres débarcadères qui sont en train d'être construits dans le cadre du projet LIS vers les lacs Édouard et lac Albert, quelque chose comme ça. Mais ces débarcadères aussi, oui, sont construits là-bas, mais la gestion, la pérennité de ces infrastructures, parce que nous devons aussi avoir le respect du bien public et la protection du bien public. Ce sont des infrastructures que l'État met en place à la disposition des acteurs, et c'est pourquoi je vous dis que cette collaboration entre les ministères et les acteurs doit être vraiment très régulière et doit être consolidée pour que nous ayons les mêmes informations au même moment et savoir comment aussi vulgariser ces informations aux plus petits acteurs de pêche qu'ils soient.
Bien, merci à Madame Patricia Maïcha. Nous rappelons que vous êtes experte en gestion des ressources halieutiques et économie bleue durable. Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous aussi.
Merci. Nous poursuivons cette émission. On va accueillir les auditeurs. Roger Marcel est à Kinshasa et André nous appelle des Kananga. Roger Marcel, bonjour. Roger Marcel.
Tous les amis fidèles de la radio, c'est la paix.
Oui, on vous écoute, Roger Marcel.
Merci beaucoup pour la thématique du jour. On pense qu'on a salué quand même l'initiative du gouvernement parce que ça faisait quand même du mal quand on voyait quand même à chaque fois on pouvait aller prendre des gestards et acheter ailleurs, mais aujourd'hui c'est dans notre pays. On salue quand même l'initiative.
Il y aura quand même des questions pour se poser. Aujourd'hui, si on aura quand même les bateaux de pêche, ça va beaucoup soulever quand même notre pays par rapport à ce qu'on a étudié à l'école. On dit qu'on a les lacs les plus poissonnés au monde, on a les fleuves Congo. Si on parle de l'Amazonie, on parle quand même de
mais oui, Roger Marcel, quelle est la question? Oui, passez si rapidement à la question, Roger Marcel.
Si vous allez aujourd'hui au marché pour acheter quand même les poissons, vous verrez que c'est cher quand même. Je pense que si quand même avec l'initiative aujourd'hui, notre gouvernement met en place de voir quand même des 8 bateaux de pêche, ça pouvait quand même aider quand même et soulager notre population. Mais il y a quand même des questions qu'on se pose, parce qu'on connaît quand même les cas avec notre compagnie d'aviation. Lorsqu'on a eu des avions qui sont arrivés dans notre pays, il y a eu quand même des pannes. Ça ne sera pas quand même les cas avec le bateau de pêche qui va encore arriver. Parce qu'on connaît comment notre pays fonctionne. Lorsque vous verrez quand même les choses arriver après à un bon moment, à un certain moment, vous ne verrez plus encore ces choses-là. On va vous dire que c'est tombé en panne, on va réparer. Je pense que si ça reste juste
voilà.
Comme ça, ouais.
D'accord, merci. Il y a quand même des inquiétudes par rapport à la gestion de ces bateaux de pêche. Voilà, il voudrait que cela soit bien géré et que ces bateaux ne se retrouvent pas voilà, en panne, etc. Charles Kissimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi aux auditeurs.
Bien, comment mieux organiser le secteur de la pêche et l'aquaculture? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelle est votre question là-dessus?
Quel journaliste est mal visé chez nous? Les experts et techniciens dans les domaines sont toujours isolés. Et la chose publique est gérée en clef d'amis. Ils garisaient la loi, comme disait Madame, malheureusement elle est partie, trop tôt. Ils garisaient la loi sur la pêche. C'est une fiscalisation des drogues. Nous avons autant de textes dans ces pays. La mise en pratique sera toujours défaut. Moi, je pense vulgariser, c'est perdre l'État inutilement. Pour sauver ce secteur-là, il a fallu rapprocher tout le monde. Et les experts, et les techniciens, comme les professeurs qui continuent à être là. Il a les expériences, il a les idées. Mais je ne sais pas si il a déjà été sollicité par ses gouvernements. Pour être sollicité, il faut être dans leur soi-disant parti politique. Mais l'intérêt, la situation ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, nous faisons des va-et-vient dans le sud pour aller solliciter des inchards. Mais ça fait honte, ça fait même pitié.
Charles, si le secteur, si la filière de la pêche et l'aquaculture est mieux organisée, on n'aura plus à aller acheter et à importer les poissons.
Mais quand est-ce que ça sera organisé, Monsieur Jody?
Bien, c'est la question. Oui, mais c'est la question. Oui, bien sûr, mais c'est la question du jour. Dites-nous, Charles, dites-nous comment on peut mieux organiser cette filière d'après vous pour que qu'on ait une bonne production des poissons.
D'après moi, c'est la conscience d'abord. Si la conscience n'est pas là, je pense qu'on aura proposé jusqu'à fatiguer. Et une petite question.
Oui.
Où seraient d'abord les chambres froides? Dans les jours passés ici, on a vu les images des chambres froides. Mais jusque-là, je ne sais pas s'ils sont déjà sur le terrain ou pas. Vers 2006, on avait donné des tracteurs à ce qui concerne l'agriculture. Mais les tracteurs ont été retrouvés bâchés derrière les domiciles des administrateurs des territoires. Est-ce que ça sera aussi la même chose avec ces bateaux-là ainsi que ces chambres-là?
D'accord, merci. Merci Charles. Merci Charles de Lubumbashi. André de Kananga nous a écrit, il dit ceci, pour mieux organiser l'aquaculture dans le pays, il faut renouveler toutes les anciennes stations piscicoles, jadis laissées par le corps de la paix, et en créer d'autres en même temps, avoir des centres d'alvinage dans chaque province. Nous avons en ligne le professeur Acer Nzovu, expert en droit de l'eau. Professeur, bonjour.
Bonjour Jody, comment allez-vous?
Nous allons bien, merci.
Bonjour Jody.
Bien, bienvenue professeur Acer Nzovu. Bien, nous parlons de l'organisation du secteur de la pêche et l'aquaculture dans notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux aspects réglementaires? Qu'est-ce qu'il faut pour réglementer bien ces secteurs?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les secteurs de la pêche est réglementé en République démocratique du Congo, mais il faut dire que la réglementation est un peu vieille. Nous avons par exemple le décret du 21 avril 1937 sur la pêche. Il y a aussi le décret du 12 juillet 1932 qui porte sur la réglementation des concessions de pêche. Alors, ces instruments principaux sont suivis d'autres instruments réglementaires, mais
Oui, allô, professeur.
Et des acteurs responsabilisés. Allô, oui, est-ce que vous me suivez?
Oui, oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, oui, je disais que ces deux instruments principaux, au regard des mutations que la République a connues, en ce qui concerne par exemple la structure de l'État, le centre de décision, maintenant on en a pratiquement au niveau national, provincial et même au niveau des ETD, les textes s'avèrent inadaptés. C'est ainsi que, à mon avis, la réglementation doit être revue pour qu'elle soit réadaptée, pour que les acteurs à différents niveaux selon la structure actuelle de l'État aient des responsabilités claires dans les domaines de la pêche. De cette façon, on peut effectivement, déjà en réglementant bien les secteurs, inciter le privé à intégrer également les secteurs, les appuyer, pour qu'à marge des structures qui ont existé, qui sont encore en veilleuse. J'ai même entendu un auditeur qui a parlé des stations de pêche qui devaient être réhabilitées pour contribuer à la bonne, comment dire, gestion du secteur. Donc, en plus de stations de l'État, il faudra aussi inciter correctement les particuliers en leur reconnaissant des rôles très clairs dans les activités de la pêche.
Bien, donc voilà, vous dites qu'il y a la réglementation existe déjà, mais elle est obsolète. Il faut qu'elle soit mise à jour.
Oui, c'est exactement ce que je dis. Parce que si vous prenez par exemple le décret de 1937, c'est en fait un décret qui réglementait en même temps la chasse que la pêche. Mais en 1982, le législateur a actualisé la réglementation de la chasse, mais n'a pas touché à la pêche. Et pourtant, les raisons évoquées pour la réglementation de la chasse, en fait pour l'actualisation de cette réglementation, sont les mêmes que celles qui concernent la pêche. Par exemple, à ce jour, la pêche ne peut plus se pratiquer sans tenir compte de la protection de ses ressources, donc de tous les instruments juridiques qui protègent l'environnement, qui protègent la biodiversité. Donc ça, c'est un impératif qui doit être rencontré.
Allô, professeur?
Et vous avez une terminologie vieille ou des structures qui ont existé à l'époque, qui n'existent plus, comme le gouverneur général et autres. Et donc, à ce jour, effectivement, il faudra que le secteur, l'instrument juridique soit revu, réadapté aux impératifs du moment.
D'accord. Professeur Mutambwe Shango, professeur Mutambwe Shango, votre réaction?
Je veux déjà commencer à vous dire que je prends juste un petit mot latin. C'est vrai que l'espoir fait vivre, mais je dis plus loin en latin, on dit celui qui vit de l'espoir risque de mourir de faim. C'est là où je suis pour le moment. Pour commencer avec les bateaux. Avoir les bateaux, c'est bien. Mais sommes-nous capables d'utiliser ces bateaux de façon durable? Ça, c'est autre chose. Parce que dans les pays organisés ou développés, qui dit bateau, on sait on va aller pêcher dans tel coin parce qu'on a un stock, tel stock, et on va pêcher autant. On va laisser autant. C'est vrai que nous avons les châteaux d'eau d'Afrique, mais sommes-nous capables aujourd'hui de dire que nous avons un stock d'autant de tonnes et que nous puissions aller les pêcher et les laisser pour la reproduction ou pour assurer la pérennité? Parce qu'il ne faut pas tout vider. Ça, c'est un. Au jour d'aujourd'hui, qui va faire la pêche? Et ce sont nos chefs de bureau, ce sont nos attachés de bureau ou nos directeurs.
Mais pourquoi ne pas, par exemple, demander que les gens investissent beaucoup plus dans les secteurs, que les entrepreneurs, qu'il y ait beaucoup plus de capitaux frais, tout ça, les investisseurs, faire appel aux investisseurs pour développer cette filière?
Mais vous savez que investir dans les secteurs, par exemple, aquacole, c'est le moindre des choses. Je vous ai dit que avant l'indépendance, nous avions des centres d'alvinage. C'est suffit d'avoir des moniteurs agronomes chevronnés qui vont sillonner à travers le pays. Ce ne sont pas eux qui vont faire, mais ils vont encadrer les pisciculteurs à travers les différents villages. Je suis en train de faire une expérience à Tswenge et à Massina ici. De la rizue pisciculture. Si on pouvait aider ces pauvres qui font le riz ici à associer le riz avec les poissons, mais on va produire des millions de tonnes. Mais qui va le faire? Il faut des encadreurs, il faut ce qu'on appelait dans l'état de moniteur à piscicole. Mmh. Donc ça, on n'en a pas. Donc on peut faire des réunions, trouver ceci, trouver cela, mais tant qu'on n'a pas les hommes de terrain, tout tombe dans la nullité.
Donc on peut dire que tout est à refaire et il faut beaucoup plus de moyens dans les secteurs pour développer la filière
pêche. Il faut des moyens, mais des moyens humains surtout. J'ai commencé à dire qu'il y a un ravin entre l'administration et les recherches. Pourquoi ce ravin? Je ne sais pas. J'ai publié des travaux. J'ai publié des travaux intéressants sur la pêche au fleuve Congo. Maintenant, on travaille sur la pêche artisanale. Mais aucun administratif ne sait ce que j'ai fait. J'étais même avec un des amis qui est venu lors de l'atelier qui a eu lieu la semaine passée. Il est venu de l'Ouvira. À Bukavu aussi, où se trouvent trop de chercheurs dans le secteur aquatique, ils n'ont jamais eu un rond pour développer la recherche. Rien. Mais personne ne sait ce qu'ils font. Comme ils publient à l'étranger, quel est le Congolais qui a de l'argent pour acheter ses revues? Donc, j'ai dit, il faut développer la recherche, parce que c'est avec la recherche qu'on peut faire beaucoup de choses.
D'accord. Professeur Mutambu insiste sur le développement de la recherche. Et il faut des moyens, investir beaucoup plus de moyens dans les secteurs afin de développer la filière de la pêche et de l'aquaculture. On va accueillir trois autres auditeurs, Wesley Luboya de Kananga, Justin Koulou de Fungurume et Safari depuis Gabarrière. Wesley Luboya, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour à la radio de la paix, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs. J'ai suivi notre invité dire qu'il y a une réglementation dans le secteur de pêche, mais c'est une difficulté parce que cette réglementation ne se fait pas sentir ici dans nos milieux où nous vivons, particulièrement au Kassai Central. Nous avons la rivière Lulua où les poissons meurent du jour au jour à cause des manques de matériel adéquat qui peut permettre la pêche ordonnée. Nous avons la rivière Mwanzamuma, nous avons la rivière Tibashi, nous avons la rivière Nganza. Je vous dis, il y a beaucoup de poissons qui meurent du jour le jour, qui vieillissent à fortiori, mais parce que les pêcheurs n'ont pas de matériel, n'ont pas une réglementation qui régit d'après eux ce secteur pour une exploitation harmonieuse. Maintenant, la question que je voudrais poser à notre invité, si la réglementation est déjà là, comment elle s'exécute dans nos milieux? Parce que ici, nous avons suivi l'année passée, le mandat passé, le chef de l'État, qui a fait des commandes de poissons d'ailleurs pour ravitailler certains marchés ici dans notre pays. Or, nous avons des lacs, nous avons des rivières où il y a beaucoup de poissons, mais nous qui sommes ici, nous subissons des conséquences énormes parce que nous ne les consommons pas. Mais voilà la raison pour laquelle je voudrais vous demander, monsieur l'invité, si la réglementation est faite, comment elle s'exécute et comment elle peut être exécutée pour que les pêcheurs que nous avons ici puissent quand même s'y conformer. Et en dehors de cela, je vous ai parlé la fois passée de la pêche illicite, souvent utilisée ici chez nous, la pêche artisanale, où nous trouvons que la plupart des pêcheurs utilisent même des plantes amères pour tuer même le petit poisson, surtout dans des petites rivières. Alors, si cela est le cas, pourquoi cette réglementation n'est pas promulguée ici dans la province du Kassai Central pour que la conformité à cette réglementation soit réelle et palpable? Merci beaucoup, c'est Wesley Peter Luboya.
Merci beaucoup, Wesley. Bien, on va accueillir Justin Koulou de Fungurume. Bonjour Justin, quelle est votre question?
Monsieur, je dis bonjour et je dis bonjour à notre invité. En tout cas, c'est une situation que nous devons réveiller nos autorités pour qu'ils puissent y mettre là-dessus. Parce que ce n'est pas possible. Un Congo qui consomme beaucoup de poissons et il a des eaux qui restent comme ça oubliées sans pouvoir y investir. J'ai des petites questions, M. Jody. Ici chez nous, j'ai vécu, j'ai grandi autour de Bupemba, à Kazasese, à quelques kilomètres du lac Bupemba. Alors, il y a une période où il y a le vent. Là, chez nous, on retient même les 11-11. Donc, c'est une date, même quelqu'un qui n'a pas appris, il va s'attendre à un courant, une vague, une tempête qui va tuer des poissons en masse. Et avec nos experts, comment faire pour protéger ces poissons-là? Et puis c'est pendant une période où les poissons auront déjà des œufs. Donc c'est parmi les embuscades. Est-ce que le gouvernement n'a pas encore fait des recherches? S'il y a des recherches, que notre invité nous donne la réponse sur ça pour prévenir nos poissons qui meurent et qui pourrissent. Il n'y a pas même moyen de les ramasser, même de frétins. Il y a seulement de vieux poissons qui sont sur le fin fond qui persistent. Oui, oui. Deuxièmement.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de pêcheurs dans le coin? Parce que vous dites qu'il y a un vent qui souffle et qui tue les poissons. Ça se fait comment?
Oui. Au mois de... La date là que je vous ai dit, 11-11, il y a une très forte tempête. Quand la tempête là passe, et la tempête, donc le matin, il y aura à la surface de l'eau des poissons pourris. C'est comme des neiges. Et on passe, on ramasse. Et c'est déjà, si ça quitte déjà le bas et ça remonte, c'est déjà pourri.
Et les gens ramassent pour aller les jeter ou pour aller manger, préparer et manger?
Il y a la quantité qu'on va consommer et la quantité qu'on va réserver pour la commercialisation. Mais vous voyez la quantité que vous en aurez beaucoup. Et pour les garder, c'est très compliqué parce que ça va demander du sel pour les mettre sous soleil. Et si on n'a pas du sel, on va les mettre dans l'état là qui n'est pas inconfortable pour pourrir. D'ailleurs, c'est déjà pourri. Ça demande beaucoup du sel pour les conserver. Et que le vent là arrive à l'imprévu, on n'a pas du sel, et ça s'abîme comme ça. Je ne sais pas, vous n'avez pas l'expérience de ça. En tout cas, vous trouvez comme des neiges sur les...
D'accord, Justin, envoyez-nous des images comme ça, envoyez sur la page Facebook d'Okapi Service des images, comme ça on aura l'occasion de voir à quoi ça ressemble. Merci d'avoir appelé. Safari, vous êtes à Iga Barrière, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour également à Monsieur l'invité. Merci pour le sujet. Je pense que le sujet est bien choisi, mais ma question c'est par rapport à la rareté du poisson sur nos marchés, car chaque fois je vois il y a des mois qui arrivent là, vous n'allez presque pas retrouver le poisson sur le marché. Alors je me demande, est-ce que ça intervient parce qu'il y a la malorganisation dans le secteur des pêches. Est-ce que c'est forcément pour cela? Voilà, une petite question. Et puis, merci. Pour finir, je vous ai entendu parler quelque part de bateaux de pêche. Est-ce que mon lac Albert est concerné? Oui, sinon, bonne journée.
Bien, mais ces bateaux ne sont pas encore arrivés. Donc, la commande a été déjà passée, mais ces bateaux, les 8 bateaux ne sont pas encore là. Bien, professeur Asernzovou, vous avez suivi un auditeur et revenu sur la réglementation. Il dit que les pêcheurs, utilisent des plantes amères, des choses qu'il ne faut pas pour attraper les poissons. Et c'est très dangereux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Effectivement, c'est dans ce sens-là que je disais que la réglementation qui existe à ce jour est inadaptée, parce que une loi doit être mise en œuvre par des acteurs. Lorsque vous lisez cette loi-là, elle fait référence à l'administrateur général au Congo, elle fait référence à la province, elle fait référence à l'administrateur des territoires. Ce sont pratiquement les acteurs clés qui sont reconnus, qui doivent justement veiller sur la réglementation de la pêche. Or, aujourd'hui, comme vous le savez, le pays a basculé vers le régionalisme et la décentralisation. Nous avons au niveau de la province beaucoup plus de pouvoirs qui sont reconnus à la province. Nous avons des pouvoirs qui sont reconnus aux entités territoriales décentralisée, à l'instar des secteurs, des chefferies et même de villes et de communes. Alors, lorsque vous lisez la loi sur l'eau qui réglemente les ressources en eau, voyez que ces acteurs ont des responsabilités à chaque niveau, les EPD, la province et le gouvernement central. Alors, on doit normalement, pour que ces questions de la pêche soient bien surveillées, adapter cette structure administrative et reconnaître à des responsables clés de l'administration le rôle qu'ils doivent jouer dans les domaines de la pêche. Par exemple, réactualiser le rôle de la province dans le domaine de la pêche, réactualiser le rôle des ETD, le secteur, la chefferie et autres. Lorsque les animateurs de ces secteurs sont suffisamment outillés pour comprendre d'abord les questions de la pêche, la réglementation de la pêche, comment mettre en œuvre cette réglementation, et puis comment justement fédérer les autres intervenants dans le domaine de la pêche. Le collègue Moutamba avait parlé justement de ce qu'il fait comme chercheur. Évidemment, moi aussi, je fais la recherche dans le domaine du droit de la pêche que j'enseigne. Mais il n'y a pas de connexion entre tous ces acteurs. Il n'y a pas synergie entre les acteurs de l'administration et les chercheurs et tous les autres acteurs qui interviennent. Donc, on part en ordre dispersé. De cette façon-là, il n'y a pas une réglementation qui puisse fédérer tous les acteurs. Voilà pourquoi on est en difficulté. Et si on va pêcher même les alevins, personne n'arrête. On ne sait pas où est-ce qu'il faut dénoncer et ça fait problème. Alors que s'il y avait surveillance au niveau des ETD de la pêche, par exemple les pêcheurs artisanaux surveillés par les entités territoriales décentralisées, on leur reconnaît l'autorisation de pêcher, on leur donne justement le règle, comment ils doivent pêcher, à quelle période, et tout ça, ça permettrait à ce que le secteur soit suffisamment surveillé et que la pêche soit boostée. Mais pour l'instant, je disais, la législation est obsolète. Elle n'est pas adaptée et en pratique, chacun essaye de faire ce qu'il peut faire sans synergie, sans coordination.
Bien, professeur Hassan Zovou, expert en droit de l'eau, merci et excellente journée. Okapi. Comment mieux organiser le secteur de la pêche et de l'aquaculture en République démocratique du Congo? Nous avons en ligne le professeur Motamwe Shango. Il est expert en écologie du milieu aquatique. Professeur, vous avez suivi tout à l'heure un auditeur de Kananga qui dit qu'au niveau de la rivière Lulua, Mwanzangoma et autres, les poissons meurent de vieillesse. De ces côtés-là, et les poissons pourrissent. Voilà, et Justin de Fungurume qui nous dit qu'il y a une tempête qui vient tuer les poissons. Voilà, il y a des pertes énormes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs à ce sujet?
Bon.
Je sais que vous avez toujours dit que les poissons ne meurent pas de vieillesse chez nous.
Les poissons qui meurent de vieillesse, je ne sais pas si là on peut trouver leur cimetière. Non. Pour compléter ce qu'a dit le professeur,
oui,
ce capitaine, l'arrêté est très très obsolète. On a fait des tentatives
d'actualisation,
donc de rédaction, d'actualisation de l'arrêté, donc depuis 2004, qu'on appelle le projet de loi sur la pêche et aquaculture. Depuis deux, j'ai participé à presque toutes les phases. Cette loi n'a jamais été reconnue par l'Assemblée nationale jusqu'aujourd'hui, depuis 2004, alors que les choses ont changé. Certaines provinces, trois que je connais, dont le Maïndombe, Kinshasa et le Grand Katanga, ont conçu ce qu'ils ont appelé charte pour la pêche et mini-charte pour la pêche et aquaculture parce que rien ne s'est fait au niveau des provinces comme au niveau national. On n'a pas les éléments qu'il faut pour une gestion durable. au niveau provincial, de ces trois provinces, on a réalisé ces mini-chartes de pêche et aquaculture. L'application sur le terrain est nulle. Zéro. Zéro.
Professeur, c'est quand même trop fort, zéro. Il y a quand même quelque chose qui se
Mais
fait.
Mais je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. J'ai même des collaborateurs qui ont travaillé, nous avons travaillé. Moi, Moutambo, j'ai travaillé dans la province de Maïndombe. J'ai travaillé à Kinshasa. Et je suis avec les conseillers de Kinshasa, du ministère, jusqu'à aujourd'hui. Et les mini-chartes, c'est conçu par l'administration, les privés, et les ONG et tout consort qui travaillent dans le secteur pêche. Donc, ils ont conçu un tri qui est susceptible d'assurer une gestion durable.
Voilà, donc on retient qu'il y a d'abord le problème de la loi qui n'est pas mise à jour. Voilà, qui depuis...
Depuis, j'ai dit non. Mais il peut y avoir des conséquences environnementales qui peuvent entraîner la mortalité des poissons. Ça, c'est vrai. Mais des vieillesses, non. OK? Il y a un autre qui a parlé des experts. J'ai rigolé. Nos experts. Est-ce que nous avons des experts? Le ministère a des laboratoires de recherche où il y a des chercheurs. Je n'ai pas encore entendu.
Et comment vous faites, professeur, pour avoir des alevins?
Qui? Les alevins?
Oui.
Dans la nature ou de façon artificielle?
Bon, parce que j'imagine c'est au niveau des laboratoires que tout cela, vous faites des études et puis voilà, et après bon.
Mais c'est fait chez moi à la maison, j'ai produit des alevins d'Engolo pour le moment.
Les poissons chats.
Et des mingous, des tilapias.
Des tilapias.
Chez moi à la maison.
Et pourtant,
pourquoi? Parce que l'université ne m'a jamais donné un franc pour développer ses recherches. Les étudiants que j'ai eu à former et leurs apprenants, du moins de la ville de Kinshasa, sont en train de créer des écloseries de fortune. Donc, si on pouvait soutenir ne fût-ce que ces privés-là pour produire les alevins et les élever, on ne ferait pas appel aux poissons chez Charles.
Et vous avez dit, professeur, que nous avons près de 1000 espèces de poissons, mais apparemment, on ne parle que des tilapias et des poissons chats qui sont...
Il y a les poissons d'élevage qui, pour le moment, sur 560 espèces de poissons élevées à travers le monde, au Congo, l'espèce qui est très connue, c'est le tilapia, est venue l'engolo, le clarias, depuis 2000. Et j'ai fait partie de ceux qui ont introduit officiellement ou de manière... donc, qui a introduit ça officiellement comme espèce pour l'élevage.
Et les poissons Thomson...
Sinon, l'utilisaient comme prédateur.
Professeur, les poissons Thomson, la mer, comme les gens l'appellent ici, est-ce qu'il n'y a pas moyen de produire aussi localement ces genres de poissons? Ou c'est pêché
non,
au niveau
de
la mer?
On n'a même pas besoin d'introduire ça. Je ne connais pas la politique du gouvernement en matière de pêche. Hein. Je suis nul. Je sais que les bateaux sont presque, on a presque les 8 bateaux. J'ai vu le ministre avec le président. Mais on peut reprendre, j'ai dit on peut, la pêche. Mais nous devons, je ne sais pas si le gouvernement a encore signé des accords avec les pays voisins, parce que l'eau après Congo Frigo, le gouvernement zaïrois à l'époque a annulé tous les accords que nous avions avec les pays voisins. Donc on n'avait pas droit à pêcher aux environs de chez nous. Donc il fallait aller à haute mer. Est-ce que maintenant le gouvernement a revu les accords avec les d'autres pays, Je ne sais pas.
Professeur, professeur, mais on peut espérer que l'acquisition de ces huit bateaux de pêche va certainement relancer la pêche industrielle à travers le pays.
Mais pour moi, comme j'ai dit, pour moi, il fallait commencer d'abord par des études. Où pourrons-nous faire la pêche? Où? Et quel est le stock? Lorsqu'on on élaborait la politique de la pêche en RDC à l'hôtel Venus, j'avais posé cette question-là parce qu'on parlait des bateaux de pêche. J'ai dit, mais et le stock de poissons que nous avons? On sait, on a une idée de la qualité, donc des nombres d'espèces que nous avons. Mais est-ce que nous avons une idée du stock de poissons que nous avons? Moi, Moutambo, moi, pas une autre, avec mes étudiants et avec les projets qu'on a appelés Djambadjali, on a travaillé sur le lac Maindombe. Mais on sait qu'il y a une quarantaine d'espèces, mais qui connaît le nombre, le tonne, la quantité de poissons qui sont là? Vous venez, vous mettez les poissons, les bateaux là-bas. En une journée terminée, tous les poissons sont épuisés.
Ah bon?
Et vous aurez fait quoi? Mais
en une journée,
ce sont
journée.
Des poissons qui amènent des milliers de tonnes. Mais dans la politique de la paix, il y a ce qu'on appelle la gestion du stock.
Oui. Voilà, il est important de connaître. Oui. On retient, professeur, qu'il est important de connaître les stocks que nous avons. Sinon, on peut se mettre à pêcher en une journée. Tous les poissons sont finis.
Mais oui. Voilà. Mais oui. Est-ce que sur le fleuve Congo, on peut mettre un bateau de pêche? Moi, je vais rigoler.
Peut-être sur les Tanganyika, au niveau du lac, on dit là-bas, il y a beaucoup de poissons, lac Albert, tout ça, des poissons qui meurent de vieillesse.
Mon cher ami, j'ai toujours dit, le lac Tanganyika est géré par 3, 4, 5 pays. Ces pays ont des bateaux de pêche qui pêchent. Et il n'y a pas de barrière entre le Congo et ces pays-là. Donc, les poissons circulent partout. Et vous croyez que ces pays-là nous font des économies pour nous? Je ne sais pas, moi je ne fais pas la politique, oui. Je fais la recherche.
La recherche, oui.
Et je suis aussi fatigué, je suis déjà vieux, mais je regarde, mais je rigole.
Bon, professeur, on aura l'occasion de revenir sur ce thème prochainement, comment mieux organiser le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Mais je dis déjà, s'il vous plaît.
Oui, professeur.
Quand vous dites nos experts, il faut amadouer les termes. Au jour d'aujourd'hui, des professeurs, docteurs, les professeurs, docteurs en poisson, il n'y a que 27. 27 pour le pays le plus riche en réseau hydrographique en Afrique.
Professeur Moutambo, merci. On n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes expert.
Donc, on n'a pas d'experts.
Voilà, on doit se battre pour les avoir. Je rappelle que vous êtes expert en écologie du milieu aquatique. Merci et à la prochaine.
Merci.